Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Les communautés autochtones et métisses sont réparties aux quatre coins du Canada, plusieurs nations, plusieurs réserves et plusieurs groupes non inscrits. Selon les recherches, il n'y a pas doute sur leurs déplacements et résidences saisonnières et même permanentes sur les îles. Aujourd'hui, les Malvinos, nous faisons partie d'une société bien distincte par notre mode de vie rythmé par la mer et les échanges. Une nature grandiose nous a aussi façonnés et bien sûr nos racines. Mais est-ce possible de cohabiter avec une autre communauté? Anne-Marie et Alexis Gros-Louis, Houle, autochtones, Wendat, maintenant dans la trentaine, ont passé leur enfance et leur adolescence aux îles.
Je suis déménagée à Montréal pour mes études en musique. Donc, j'ai complété mon baccalauréat en musique à l'UQAM, en musique pop, en chant. Je ne suis pas née aux îles, mais j'ai grandi aux îles de la Madeleine. J'ai arrivé, j'avais environ 4-5 ans aux îles et j'ai fait tout mon primaire et mon secondaire aux îles de la Madeleine. Aux îles, je faisais secondaire spectacle. J'ai commencé la scène jeune. C'était pas un questionnement pour moi. J'ai toujours voulu faire ça, la musique de ma vie, d'être chanteuse, d'être autrice, compositrice, interprète. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Fait que je suis extrêmement choyée et je me compte chanceuse de pouvoir vivre mon rêve.
Anne-Marie Gros-Louis Houle, tes parents avaient décidé d'habiter aux îles de la Madeleine pour exercer leur profession?
Oui, mes deux parents sont médecins, Lise Gros-Louis et Raymond Houle. Ils étaient bien connus aux îles là, parce qu'il n'y en a pas mille des médecins. Certaines personnes vont sûrement reconnaître mon nom comme ça. Il y avait eu la piqûre, en fait, il était venu en vacances aux îles, puis il était tombé en amour avec l'endroit. Puis c'est tout simplement comme ça qu'ils ont pris la décision de s'en venir aux îles et de nous amener avec eux. Ça fait qu'on a vraiment vécu un bon moment aux îles, puis ça a été tout un apprentissage aussi pour moi, je dois le dire, au niveau de la musique, parce que on s'entend que les îles, l'hiver, des fois, on cherche quelque chose à faire, puis c'est comme ça que je me suis mis à pratiquer, à travailler ma musique, à me perfectionner dans mon art.
Et tu es d'origine amérindienne?
Oui, en fait, je suis autochtone, je suis de la nation Huron-Wendat. C'est du côté de ma mère. Ma mère, son père, Léon Gros-Louis, était autochtone Huron-Wendat.
J'ai habité dans la région de Québec, notamment à Loretteville, où est la nation Wendat, à Wendake, et tous connaissaient Max Gros-Louis. Tu en parles notamment sur les réseaux sociaux.
Oui. Dans le fond, ma mère, c'est la cousine de Max. Mais Max Gros-Louis avait tellement pas un gros écart d'âge entre lui et mon grand-père. Il passait parfois pour des frères. Puis quand mon grand-père est décédé, je pense que j'avais 6 ans, et Max a pris un peu ce rôle-là dans ma vie de grand-père. D'ailleurs, il y a une chanson que j'ai écrite pour lui sur mon premier EP qui s'appelle Oné Onti. Comme moi, et après, c'est mon nom Wendat, ben lui, Oné Onti, c'est son nom à lui. Il est décédé maintenant, aujourd'hui, mais quand j'avais écrit l'œuvre que je vous parle, Oné Onti, c'était peu de temps avant son décès. Et c'était pour moi ma façon de l'accompagner, si on veut, que le passage de la vie à la mort se fasse en paix, paisiblement dans le fond. Parce que Oneonti, ça veut dire aussi le grand pagailleur. Et je l'imaginais, hein, quand j'ai écrit la chanson, là, comme voguant sur l'eau, comme un peu s'en allant, en faisant son dernier voyage en canot.
C'était un hommage à la fois que tu lui rendais?
Oh oui, c'était définitivement un hommage à notre relation, à sa vie. T'sais, je voulais célébrer sa vie aussi. Il était très connu. Et pas juste au Québec, là, mais vraiment à l'international. Les gens l'adoraient et il s'est battu pour les Autochtones, les Premières Nations. C'était vraiment une figure emblématique. Les gens l'adoraient. Il avait toujours, toujours de la visite chez lui. Le téléphone sonnait et c'était comme un personnage que les gens adoraient.
Comment tu as vécu Huron aux îles de la Madeleine. Est-ce que chez vous, là, quand tu étais petite aux îles de la Madeleine, comment ça se passait en lien avec tes origines autochtones?
C'est sûr que c'était toujours quelque chose que les enfants et plus tard au secondaire, quand j'étais adolescente, tout le monde le savait. T'sais, on était comme un peu les autochtones de la place, si on veut, parce que je pense qu'il y avait peut-être une autre personne. Il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là aux îles. Puis, tu sais, moi, j'avais toujours été très fière de ce statut-là, d'être autochtone. Et chez nous aussi, ma mère, elle brûlait de la sauge. On faisait des cérémonies de purification et j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et les gens le savaient, puis les gens étaient respectueux de ça aussi-là. C'était vraiment comme dans la transmission à l'oral, comme des choses que ma mère m'apprenait. Je vivais seulement à la maison. Je pouvais en parler peut-être avec mes amis proches. Et quand que justement mes amis venaient à la maison, il y avait toujours, tu sais, on avait plein d'objets, des tambours, des calumets de la paix. Les gens étaient fascinés quand même par cette différence-là, cette façon de vivre-là un peu aussi. Je leur en parlais. Je dirais que je me suis vraiment plus rapprochée de mes racines. Ça fait environ depuis 2013 quand j'ai fait une émission de télé animée par Samian qui s'appelait Le Rite. Parce que là, on était 7 artistes autochtones et on créait un album ensemble, en groupe. Et c'est vraiment là que j'ai appris plus, en fait, que j'ai reconnecté avec ma nation, mais avec les autres nations aussi autochtones.
Parce que ici, ça se vivait uniquement au niveau familial.
Oui, oui. C'était vraiment, et je dirais pas que c'était caché, mais c'était comme un peu plus privé. On vivait ça entre nous, puis c'était correct comme ça. Puis on en parlait aux gens qui en étaient plus proches, mais ce n'était pas quelque chose qu'on a nécessairement partagé, que tout le monde savait. T'sais.
Est-ce que tu t'es sentie ostracisée ou encore jugée ici par rapport à ses origines?
Non, mais les gens étaient plutôt respectueux. C'est sûr qu'au secondaire, des fois, je me faisais appeler Pocahontas, là, mais rien de plus que ça. Là. En général, les gens trouvaient ça même intéressant et le fun de savoir qu'il y avait des autochtones qui vivaient aux îles.
Anne-Marie Gros-Louis Houle, du nom d'artiste EATC. Dans quelle mesure les îles de la Madeleine s'intègrent dans ta vie d'artiste?
En fait, moi, c'est les îles, ça fait partie d'une grosse partie de ma vie. Puis, ça a vraiment été la fondation pour moi au niveau de ma carrière parce que j'ai tellement eu la piqûre pour la musique, mais aussi le fait que c'est isolé, le fait que les longs mois d'hiver, parfois on ne sait pas trop quoi faire, ben, je m'assisais au piano et je pratiquais mon piano classique. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser et à vouloir faire ça de ma vie. Fait que pour moi, les îles, c'est vraiment très significatif au niveau de ma carrière.
C'est une fondation.
On s'entend qu'une fondation, ça doit être solide aussi. Donc, mes bases que j'ai eues, qui m'ont été enseignées d'ailleurs par Jean Bergeron, qui habite à Vaubert, il m'a enseigné la musique aux îles. Et le fait que j'ai une formation classique, ça fait que je peux m'accompagner aujourd'hui, je peux chanter en même temps que je joue le piano, je fais de la composition aussi pour des jeux vidéo, pour des films. Ça a vraiment été très, très, très formateur. Puis on s'entend aussi que les îles, c'est vraiment un endroit où tout le monde, tu sors et tout le monde a une guitare, un violon, les gens jouent de la musique. Fait que c'était vraiment quelque chose qui a été nourri là, en habitant là-bas. Mon père écoutait toujours du Suroi sur le bateau et c'est vraiment comme quelque chose qui m'a marqué et comme encore aujourd'hui, Suroi, je veux dire, moi je fais écouter parfois ça à mes enfants. C'est vraiment un groupe que je trouve que c'était inspirant de les voir aller. Ils sont vraiment professionnels et ils ont tous chacun leur talent dans leur instrument. Et moi, ça m'a vraiment inspiré ça aussi à continuer. Puis tu sais, malgré le fait que c'est pas du tout le même style qu'on fait, musicalement parlant, mais c'était vraiment une inspiration pour moi de voir des gens comme ça arriver à exceller dans leur domaine.
Y a-t-il eu des événements ou des gens qui ont été des catalyseurs pour toi?
J'ai une professeure, elle était professeure de musique au secondaire et je pense que c'est Sylvie Descosses. Sylvie, elle m'a vraiment, elle m'a fait un peu comprendre que j'avais du talent. C'était les premiers cours, je me souviens, je m'assisais au piano, puis je jouais, mettons, je me mettais à chanter quelque chose, et là, elle m'a regardée, elle me disait carrément, tu sais, wow, tu as vraiment une belle voix, tu as du talent. Et à chaque fois que je revenais dans mes cours, c'était comme ma motivation là, de continuer mes cours de musique parce que tu sais, je sentais qu'il y avait comme à quelque part une validation de quelqu'un qui connaissait ça.
Comment tu te décris? À quelle appartenance tu fais référence?
Moi, je me sens très, très près de mes racines autochtones. C'est sûr, je suis à Montréal, mais il y a quand même une communauté qui s'est créée à Montréal et je trouve ça vraiment super beau à voir et super le fun de savoir qu'il y a d'autres Autochtones dans la ville et que c'est un réseau que je peux me permettre d'avoir ici. Les projets que j'ai eus aussi m'ont vraiment guidée à continuer dans cette optique-là. Mon but à reconnecter avec mes racines, à reconnecter avec le fait que je suis Ronwendat et j'en apprends tous les jours. Je trouve ça fascinant réellement. Une des choses que je trouve le plus beau, c'est vraiment ça, l'aspect de communauté, l'aspect que les gens se tiennent ensemble. Ça arrive souvent dans des cas de spectacle ou des contrats, des tournages d'émissions de télé. Je vais souvent croiser d'autres artistes autochtones comme Elie Sapi, je l'ai croisé souvent. Il y a Laura Nkwe, que j'ai eu la chance de travailler avec elle aussi. Anna Knid, c'est tous des noms qu'on voit passer beaucoup présentement dans les médias. Puis moi, j'ai aussi travaillé en fait pour Musique Nomade, qui est un organisme à but non lucratif de musique autochtone. Donc, j'ai pu travailler avec plein d'artistes autochtones. Puis, tu sais, je travaillais pour les artistes. C'est vraiment au niveau des communications. C'est vraiment valorisant de faire ça, de voir comment il y a du talent aussi, comment que les gens ont envie de montrer, regardez, on est autochtones, mais on est bon, puis c'est ça qu'on fait, puis on a envie aussi de transmettre des valeurs, transmettre des messages. Je suis allée dans des écoles secondaires, et il y a une école secondaire dans le coin de Longueuil. Les élèves avaient fait des rubans pour représenter en fait, les enfants trouvés, les tombes qui ont été trouvées des pensionnats autochtones. Et il y avait des rubans pour symboliser les enfants. Et il y en avait comme tellement dans le gymnase. C'était comme vraiment triste, mais en même temps, je trouvais ça beau de voir qu'ils ont fait un projet avec ça. Et moi, ils me recevaient. Et j'ai vu que les jeunes avaient un intérêt parce que les gens veulent en savoir plus. Et là, on commence à en parler de plus en plus. Tant qu'il y a la communication et que ça se fait dans le respect et dans l'ouverture, je pense qu'on est vraiment en train de faire un pas de l'avant.
Qu'est-ce que veut dire ton nom d'artiste?
Beatrice, ça veut dire ma bonne amie. Et c'est un nom qui m'a été donné par Mac Crowley à ma naissance. Donc, c'est lui qui m'a donné ce nom-là. Fait que je le porte vraiment fièrement. Et c'est un nom que j'ai gardé depuis ma naissance.
Qu'est-ce que tu aimerais? Tu dis, Michel, là, si tu pouvais comprendre ça de ma culture ou si tu pouvais savoir ça, ce qui t'émerveille le plus, ce avec quoi tu résonnes le plus, c'est quoi?
Wow, c'est une bonne question. Je crois que on a des messages à apporter, on a des choses à enseigner, des choses à transmettre. Et je pense que s'il y a une communication qui se fait, un pont qui se fait entre autochtones et allochtones, que les deux parties s'écoutent, là, je ne parle pas de rivalité là, du tout. Là, il faut vraiment que ce soit fait dans le respect. Puis, je pense que ça, c'est la base dans la culture autochtone. Ça doit être le respect. Je veux dire, on respecte la terre-mère. On a de la gratitude aussi envers le créateur. Fait que c'est vraiment important de faire ça en harmonie et d'aller dans un climat positif.
Tu sais, en terminant, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu veux leur léguer?
L'amour de la vie et de croire que tout est possible, en fait. Qu'il n'y a rien d'impossible et que c'est possible de vivre ses rêves. C'est pas toujours facile, mais de continuer, de persévérer, d'être travaillant.
S'il y a tes amis qui sont à l'écoute, tes anciens collègues ou enseignants, qu'est-ce que tu veux leur dire?
Je pense que toutes les rencontres qu'on fait dans la vie, on peut apprendre de chacune des rencontres qu'on fait dans la vie, que ce soit positif ou négatif. Puis moi, j'ai envie de remercier en fait toutes les gens qui ont passé dans ma vie, sur mon passage, puis qu'on a pu se croiser, j'ai définitivement appris de vous. Il y a tellement une belle communauté aux Îles-de-la-Madeleine, beaucoup d'amour, et ça, c'est quelque chose qui relie vraiment les deux cultures.
Pour mieux te découvrir, Ati, comment fait-on?
Je suis présente sur toutes les plateformes. Je suis présente avec mon EP, My Good Friend, et c'est sur Spotify, sur YouTube, Apple Music.
La famille Gros-Louis-Houle, au milieu des années 90, avait l'intention ferme de s'installer aux Îles-de-la-Madeleine. Et dans leur bagage, un petit bonhomme qui commençait l'école. Alexis témoigne.
C'est un parcours un peu atypique, là. Dans le fond, mes deux parents, eux, ils ont toujours travaillé en région éloignée. Et puis, avant qu'on déménage aux Îles-de-la-Madeleine en 95, mes parents, ils étaient dans la région de... Ben, je suis né dans la région de Lac-Mégantic. Ils voulaient un peu des nouveaux défis. Ils sont tombés en amour avec les îles là, durant un congrès. Donc, ils ont pris la décision de déménager toute la famille là-bas. Donc, moi, j'avais à peine 6 ans quand que je suis arrivé aux îles. Ma soeur puis moi, on était tout petits. Donc, on n'avait pas vraiment notre mot à dire, mais rapidement, on s'est fait des amis, puis on a trouvé les gens des îles super accueillants. Je vous cacherai pas qu'au début, on avait un peu de difficulté à comprendre, on n'était pas trop habitué à l'accent, mais rapidement, là, on a trouvé des gens qui nous ont bien accueillis.
Alors, l'adaptation au début, là, à 6 ans, ça s'est bien fait?
Oui, absolument. Là, quand on est arrivé rapidement, on s'est trouvé des amis. L'école, ça s'est bien déroulé aussi. Moi, je commençais en première année, donc moi, j'étais allé à Fatima, à l'école Stella Maris. Et puis, c'est là que j'ai rencontré là, plusieurs amis et puis que Je me suis adapté assez rapidement, puis je pense que c'est la même chose pour tant pour mes parents que pour ma sœur.
Qu'est-ce que tu faisais comme hobby? Les gars, ils aiment bien le sport habituellement aux îles.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai essayé le hockey. C'était pas trop ma tasse de thé, mais tu sais, on trouvait des activités, là. Il y a tellement de choses à faire en plein air. Donc, je faisais un peu de ce qu'ils font avec mes parents, un peu plus vieux. J'ai fait de la planche à neige. Là, on montait des petites buttes, puis on allait profiter un peu des environs. Sinon, je suis quelqu'un qui a toujours aimé les arts. Donc, très jeune, j'ai commencé à dessiner. J'ai toujours été intéressé par qui était cinéma, jeux vidéo. J'aimais beaucoup les films d'horreur, même quand j'étais pas très vieux. Puis ça m'a comme un peu stimulé, là, avec tout ça, avec les bandes dessinées, super-héros et compagnie. Ça m'a stimulé à commencer à dessiner puis à m'intéresser à ces milieux-là. Là.
Tu as demeuré ici tout le long de ton adolescence aussi?
J'ai été aux îles jusqu'en 2003. Moi, dans le fond, je suis parti en secondaire 3. Je suis parti en sport-études dans la région de Sherbrooke, là, faire planche à neige puis jouer à la crosse aussi.
Wow! C'était pas commun?
Non, c'est un parcours qui sort de l'ordinaire quand même. C'est une façon pour moi de participer à des sports qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles à pratiquer aux îles.
Comment tu classes les îles de la Madeleine dans ton parcours de vie? Est-ce que ça a eu un impact majeur?
Ah, ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. C'est un peu spécial parce que je sais jamais comment me définir en tant que Madelino ou autochtone. Souvent, je vais dire aux gens, ben moi, je suis autochtone, je suis un gros Louis de Wendake dans la région de Québec, mais j'ai été élevé aux Îles-de-la-Madeleine. Ça a vraiment une place dans mon cœur. Ça a été quelque chose d'assez significatif pour moi, parce que quand je suis arrivé là-bas, justement, peu importe où je venais, on m'a accueilli. L'esprit de partage, ça m'a pris l'esprit de communauté, je pense. Puis quand je viens passer mes étés aux îles, ou tu sais, je viens passer quelque temps aux îles, les gens de la place me disent, ben, t'es un gars des îles. T'as bien beau pas venir ici, t'as fait ta vie ici, puis tu connais des amis ici encore, puis il y a beaucoup d'amis que c'est comme de la famille, même si ma famille vient pas des îles, fait que c'est quelque chose de particulier.
Parle-nous de la nature des îles.
C'est une autre planète. T'sais, c'est quelque chose qui est tellement différent de partout, comme je disais, tant pour l'esprit de communauté que même visuellement, c'est pas pareil que nulle part ailleurs. Fait que quand on vient aux îles, quand on reste là quelques années, c'est comme si on partait pas pour de vrai, ou que on avait tout le temps un peu l'intention de revenir. T'sais, à chaque fois que j'ai passé des vacances, j'ai tout le temps le blues en retournant en ville, parce que c'est comme si je partais de chez moi, même si en réalité, ça fait 20 ans et plus que je suis parti des îles.
Dis-nous, Alexis, tu es autochtone. Comment tu te décris?
Ben moi, en fait, c'est mon grand-père qui a des origines autochtones et ma mère. C'est sûr qu'être autochtone en 2022, c'est pas nécessairement la même chose qu'il y a 100 ans, par exemple. Donc, être autochtone en 2022, ça veut dire se réapproprier sa culture aussi. Quand je suis arrivé, tu sais, là, ça fait 4 ans et demi que je reste à Wendake. Puis là, tranquillement, je me réapproprie ma culture. Fait que j'apprends sur la chasse, la pêche, j'apprends sur mes origines. C'est pas quelque chose que je connaissais tant que ça à l'origine. Ce que j'aime, c'est qu'avec mon entreprise, étant donné qu'on fait du visuel 3D de jeux vidéo, ben, je suis capable de véhiculer ma culture dans mon travail. C'est ça qui est intéressant. Je vous donne un exemple rapide. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur un projet de jeu. Le personnage principal est autochtone. Donc, nous, ça nous donne l'occasion de travailler sur des projets comme ceux qui viennent me chercher personnellement. Je pense que l'industrie de jeux vidéo est ouverte aux différences. Puis moi, justement, en étant artiste 3D, ça m'a permis de bien me développer dans ce milieu-là. À Wastoki, en fait, c'est une entreprise de services 3D. Là. Cette entreprise-là, j'ai lancé ça avec ma conjointe Caroline en 2018. On est comme des vétérans de l'industrie du jeu vidéo dans la région de Québec. Là. Fait qu'on a fait quelques entreprises dans cette région-là. Après quelques années dans le milieu du jeu vidéo, là, on a décidé de lancer notre entreprise là, qui se spécialise vraiment en création 3D. Donc, on n'a pas de programmeur, on n'a pas aucune des autres expertises. Nous, c'est vraiment la création, donc que ça soit des personnages, des environnements, des objets qui vont dans des jeux vidéo. Puis on fait un peu aussi d'impression 3D là, par la bande.
Pour revenir aux îles, dès le départ, tu t'es senti accueilli avec tes différences?
À l'époque où on vivait aux îles, il n'y avait aucun problème. J'ai tout le temps senti une acceptation, puis des questionnements. Souvent, les jeunes, il y avait des questions d'où je venais, puis qu'est-ce que ça voulait dire autochtone. Il y avait plus de questionnements puis d'acceptation d'autres choses aux îles. J'ai jamais senti ça négativement.
Pourquoi t'es revenu à tes racines à Wendake?
Moi, à la base, quand je suis venu à Québec, c'était pour faire des études. J'ai commencé en sciences nature. C'était pas du tout ma branche. Je voulais m'en aller en médecine comme mes parents, puis c'était vraiment pas la voie pour moi. Finalement, j'ai découvert une école en 3D à Québec. Et puis là, ça m'a vraiment donné la piqûre de ce milieu-là. Donc, moi, à la base, je venais pour les études. Au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai été amené à en apprendre un peu plus sur Wendake, qui est vraiment une banlieue de Québec, si on peut dire comme ça. Donc, moi, j'ai appris à connaître des gens à Wendake. Et puis, en connaissant des gens à Wendake, dans le fond, là, ça m'a donné le goût de me réinstaller là, puis d'installer mon entreprise là pour éventuellement être capable de redonner à ma communauté.
Et on me dit que tu es impliqué aussi dans ta communauté.
Oui, j'essaie de donner un coup de main au niveau entrepreneurial. Là, moi, dans le fond, quand j'ai fait mon bac à l'Université Laval en animation 3D, j'ai suivi des cours d'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment donné à la base la piqûre pour lancer mon entreprise. Par la suite, depuis que je suis installé à Wendake, c'est sûr que ça me donne plus le goût de m'impliquer avec les jeunes, de leur parler de mon métier, de leur parler d'entrepreneuriat. S'il y a des jeunes qui veulent se lancer en affaires, qu'est-ce que ça représente? Des coups de main aux jeunes autochtones pour leur donner la piqûre de l'entrepreneuriat aussi pour qu'ils aient le goût de faire ça. Je pense que le fait que je suis autochtone, mais qui a été élevé aux Îles-de-la-Madeleine, ça me donne un bagage qui est complètement différent de bien des gens. C'est sûr que ça fait que j'ai une espèce d'identité personnelle un peu particulière, parce que justement, comme je disais tantôt, je vais dire je suis Madelino, je suis autochtone, mais tu sais, je pense que le mix des deux va venir se véhiculer dans ma personne, puis dans mon travail, dans ma façon de voir les choses, parce que vivre sur une communauté autochtone, ça apporte une façon de voir la vie différente, mais vivre sur une communauté qui est sur une petite île de 12 000 personnes, ça amène une toute autre façon de voir la vie aussi. C'est sûr que je me suis fait des amis, puis que j'ai encore de ces personnes-là que je parle aujourd'hui, puis à chaque fois que je vais aux îles, je me sens accueilli comme si j'étais dans ma famille. Beaucoup d'amis à mes parents qui m'ont vu grandir de mes 5-6 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis rendu à 33 ans, et puis peu importe, ça fait combien de temps que je peux aller aux îles, je sais que si je m'en vais aux îles, ces gens-là vont m'accueillir à bras ouverts, comme si j'étais directement dans leur famille. C'est quelque chose d'assez particulier quand il y a des amis de la famille comme ça, qu'en tant que tel, on n'a pas de lien de sang, mais qu'en bout de ligne, dans mon parcours de vie, ben, c'est des gens même que des fois j'ai vu plus que certains membres de ma famille. Donc, c'est assez particulier que des gens comme ça viennent nous accueillir sans attendre de quoi que ce soit en retour, juste vraiment des gens de cœur à nous accueillir comme leur famille.
Est-ce que tu penses que tu transportes dans ta profession les îles? Est-ce qu'elles sont visibles ou est-ce qu'elles t'inspirent?
Il y a beaucoup un esprit communautaire aux îles, il y a beaucoup un esprit de partage, puis je pense que ça se véhicule dans ma façon de travailler parce que je suis quelqu'un qui va vouloir partager ses connaissances, qui va vouloir aider les autres, puis j'ai l'impression que le bagage d'avoir vécu aux îles m'aide à être comme ça dans mon travail. Il y a des communautés qui sont vraiment plus éloignées, puis ces jeunes-là, ils ont des réalités complètement différentes. Fait que c'est sûr que moi, quand que je vois ça, je vois qu'il y a des défis parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. C'est dans les prochaines années, moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y ait d'autres jeunes autochtones qui s'impliquent dans le milieu du jeu vidéo. Présentement, je suis un des seuls, j'en connais peut-être un ou deux autres, des Québécois, des Autochtones qui travaillent dans le jeu vidéo, puis quelque chose que je veux qu'il change parce que c'est des domaines qui sont passionnants. Oui, qui peuvent être payants, ça peut être des très bonnes jobs, mais autre que ça, c'est des domaines qui sont vraiment passionnants avec des gens qui trippent sur leur travail. Puis je pense que les prochaines années vont m'amener à véhiculer plus ça aux jeunes autochtones qui peut-être ont pas toute la chance que moi j'ai eue.
Merci à Alexis et Anne-Marie Gros-Louis-Houle. C'était un autre chapitre de la présence autochtone aux îles de la Madeleine dans la série Le Monde change. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous pour une autre histoire très bientôt.